Mais le texte liturgique d'aujourd'hui, l'épître tirée du livre de la sagesse. Celui qui a la crainte de Dieu fera le bien. Celui qui s'attache à la justice obtiendra la sagesse et elle viendra au devant de lui comme une mère honorée. Elle nourrira du pain de vie, d'intelligence et lui fera boire l'eau salutaire. De la sagesse s'établira en lui et le rendra inébranlable. Elle le soutiendra et ne sera pas confondu. Elle l'élèvera aux yeux de ses proches et lui ouvrira la bouche au milieu de l'assemblée. Elle le remplira de l'esprit de sagesse et d'intelligence et le revêtira d'un manteau de gloire. Elle amassera sur lui un trésor de joie, d'allégresse et le Seigneur notre Dieu lui donnera pour héritage un nom éternel. On se lève pour l'évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Pierre, « Suivez-moi. » Pierre, se retournant, vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, pendant la scène, s'était reposé sur le sein de Jésus, lui avait dit, « Seigneur, quel est celui qui vous trahira ?» Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que deviendra-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe, vous suivez-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit, « Ne mourra point. » Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est véridique. Veuillez vous asseoir. Attention, cette semaine, je ne serai pas là vendredi et samedi, puisque la messe en dehors, si je peux y aller à cause du temps, parce que actuellement la route est fermée, donc on verra. Si par hasard je ne vais pas en dehors, je passe un coup de téléphone, vous dire que je suis là. Dimanche prochain, messe normalement à 10h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères femmes, eh bien, chers amis, c'est aujourd'hui la fête de saint Jean. Saint Jean est un saint un peu extraordinaire. Il est différent de tous les autres saints. Il a eu un titre qui lui a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un titre qui, humainement parlant, est incompréhensible. L'apôtre que Jésus aimait. À tel point qu'on aurait croire, on pourrait croire, en écoutant ce titre de gloire extraordinaire, que notre Seigneur n'aimait pas les autres apôtres. Ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. En fait, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Saint Jean est l'apôtre que Jésus aimait à cause de sa virginité. C'est-à-dire qu'il y avait une vertu toute particulière en Saint Jean, qui était la vertu de virginité, que notre Seigneur Jésus-Christ aimait d'une façon spéciale. Et donc, il aimait cet apôtre à cause surtout de cette vertu qui n'existait pas chez les autres apôtres, puisque tous les autres apôtres étaient mariés. Et c'est là un titre extraordinaire de gloire. On voit comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'entourer de virginité. D'abord avec la très sainte Vierge Marie, la reine de la virginité par excellence, mais aussi Saint Joseph, qui était lui aussi vierge, qui conservait la vertu de chasteté dans son mariage avec Saint Joseph. Et on voit et toutes ces grandes fêtes de ces grands saints qui suivent immédiatement la fête de la Nativité, donc hier la fête de Saint-Étienne, premier diacre martyr, puis la fête d'aujourd'hui de Saint-Jean, demain les saints innocents. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ a voulu s'entourer de personnes vierges. C'est la raison aussi pour laquelle l'Église demande, notre Seigneur demande à tous ses prêtres de garder également la vertu de chasteté, de par leur fonction sacerdotale. Et c'est un grand mystère. Et ceci n'est pas le seul titre de gloire de Saint Jean. Il y a un deuxième extraordinaire et aussi incompréhensible que le premier. Il est celui qui a été nommé gardien officiel de la très sainte Vierge Marie. Là encore une fois, c'est incompréhensible. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas demandé à Saint Pierre, par exemple, d'être le gardien officiel de la très sainte Vierge Marie? Il était le premier pape. Non, notre Seigneur va demander à Saint Jean d'être le gardien de notre Sainte Vierge Marie. Et on a un lieu solennel, entre autres, parmi tant d'autres, le lieu de la crucifixion, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de mourir sur la croix. Et juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Femme, voici votre fils, à sa mère. Et à Saint Jean, qui venait d'être ordonné prêtre, qui venait d'être consacré évêque la veille, il dit, fils, voici votre mère. Et l'évangile nous dit qu'à partir de cet instant-là, Saint Jean l'a pris chez lui. Donc il va le devenir le gardien officiel de la très sainte Vierge Marie. Elle va le suivre, ensuite à Éphèse, puis même à Patmos, jusqu'à la mort de la très sainte Vierge Marie. Encore une fois, quel titre extraordinaire, gardien de la très sainte Vierge. La très sainte Vierge Marie a donc assisté à la messe de Saint Jean tous les jours, jusqu'à sa mort. Pourquoi Saint Jean et pas Saint Pierre? On voit encore une fois là l'amour tout particulier de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vertu de chasteté. Et comme Saint Jean a été le gardien de la très sainte Vierge Marie, il sera aussi, et ça encore c'est un titre de gloire extraordinaire, le gardien du dépôt de la foi. À tel point qu'on dit que, c'est vrai, que le dépôt de la foi est clos à la mort de Saint Jean. Saint Jean est mort très âgé, à 101 ans. Fin du 1er siècle, début du 2e siècle, on ne sait pas très bien. Il est mort à 101 ans et il est celui qui garde le dépôt de la foi, puisqu'il est le dernier des apôtres. Et juste après cette mort de Saint Jean, le dépôt de la foi est clos. C'est comme un coffre qui contient ce dépôt de la foi, gardé par le pape, les successeurs de Saint Pierre. Et ils n'ont aucun pouvoir pour modifier même d'un hiatus, même d'une toute petite chose, de modifier le dépôt de la foi, le contenu de la foi, parce que le contenu de la foi n'appartient pas au pape, mais appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le rôle du pape, simplement de conserver ce dépôt de la foi. Et là, encore une fois, on voit l'importance de Saint Jean. Même dans son évangile, on voit la différence. L'Église ne met pas les quatre évangiles exactement au même niveau. Bien sûr, les quatre évangiles sont révélés de Dieu, mais les trois premiers évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, ce qu'on appelle les synoptiques, sont placés ensemble parce qu'ils suivent à peu près le même plan. Ce sont les mêmes faits de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont expliqués, qui sont enregistrés avec parfois des différences de mots, mais c'est toujours les mêmes faits. L'évangile de Saint Jean est complètement différent. C'est pour ça que l'évangile de Saint Jean, chez les Pères de l'Église, est bien séparé des trois autres évangiles. Et l'évangile de Saint Jean est tellement, théologiquement parlant, plus élevé que les trois autres évangiles, que Saint Jean est représenté par l'aigle. L'aigle qui vole très haut au-dessus des cieux, qui voit beaucoup plus loin que les autres. Vous savez que chaque évangéliste est représenté, c'est la vision d'Ézéchiel, par un animal, ou un objet, ou une personne. Saint Matthieu est représenté par un homme. Pourquoi? Parce que son évangile commence par la généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Marc, c'est le lion. Pourquoi? Parce que l'évangile de Saint Marc commence par la prédication de Saint Jean-Baptiste au désert. Dans le désert, il y a des lions, donc on a pris le lion comme symbole de Saint Marc. Saint Luc, lui, est représenté par un taureau. Pourquoi? Parce que son évangile commence par un sacrifice de Zacharie. Zacharie au temple. Donc, au temple, on sacrifiait entre autres des animaux, et donc surtout des taureaux. Mais Saint Jean, lui, est représenté par l'ange. Parce qu'il est, justement, il plane au-dessus. Pardon, Saint Jean est représenté par l'aigle, lui. Parce que, justement, il plane au-dessus des autres. C'est que Saint Jean n'a pas écrit seulement l'Évangile, Saint Jean a aussi écrit l'Apocalypse et les trois épîtres de Saint Jean. Et ce n'est pas pour rien que, comme par hasard, l'Apocalypse de Saint Jean clôt la Sainte Écriture. Le dernier livre de la Bible, c'est l'Évangile, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, un des livres les plus difficiles à comprendre de l'Écriture sainte. Un livre prophétique, attention, n'écoutez pas, n'acceptez pas cette doctrine qui est malheureusement répandue dans certains milieux de la tradition, même ceux des vacantistes, qui pensent que le texte de l'Apocalypse est un texte qui explique l'ancien temps, l'ancienne histoire de l'Église. C'est totalement faux. L'Église a toujours enseigné, à commencer par Saint Jean lui-même, à son premier verset de son texte de l'Apocalypse, que c'est un livre prophétique, donc qui annonce le futur de l'Église. futur. Difficile à comprendre dans le texte, parce que la plupart de ces textes prophétiques ne seront compréhensibles que une fois qu'ils sont réalisés. Une prophétie, on ne la comprend en général pas avant qu'elle soit réalisée. C'est une fois qu'elle est réalisée qu'on comprend le sens de la prophétie. Et Saint Jean, donc, vous voyez, a tous ces titres de gloire extraordinaires. Donc, il est à la fois évangéliste, il est gardien de la Sainte Vierge, il est le protecteur du dépôt de la foi, il est l'apôtre que Jésus aimait, et aussi martyr. Et partir de ces martyrs qui sont considérés comme martyrs, bien qu'ils ne soient pas morts dans leur martyr. On considère comme martyrs des gens qui ont subi des peines qui auraient normalement dû être accompagné de la mort et qui n'ont, par un miracle du bon Dieu, la personne n'est pas morte. On les considère comme martyrs. C'est le cas de Saint Jean. Donc, c'est qu'il était, souvenirs sont exacts, il était à Éphèse. Il a été pris par les Romains, envoyé à Rome, et ils ont essayé de frire Saint Jean. Ils l'ont jeté dans une énorme bassine d'eau bouillante, d'huile bouillante, et il n'est pas mort. Il était dans l'huile bouillante. Et il est ressorti, dit le texte du bréviaire, plus jeune. Il est rajeuni. Et donc, il l'a envoyé en exil à Patmos. Et ensuite, il est revenu à Éphèse. Il est mort à Éphèse. Vous voyez comme toutes ces belles choses sur la, ces belles choses sur Saint Jean. Donc, Saint Jean est vraiment un saint un peu extraordinaire. Donc, il était pas simplement apôtre, il était aussi prêtre et évêque. Et il a fait dans sa vie des miracles éclatants. Je vais simplement vous en raconter deux. On trouve dans l'histoire de Saint Vite, Saint Jean, dans Ribadeneira, qui est un des compagnons, des premiers compagnons de Saint Ignace de Loyola, dans ses livres, ça s'appelle La Fleur des Saints, que je conseille beaucoup, certainement les plus belles vies de saints que vous puissiez trouver, et que le plus extraordinaire esprit d'Église, c'est les vies des saints, la Fleur des Saints par Ribadeneira. Cela montre la charité extraordinaire qu'avait Saint Jean. Saint Jean est passé dans tous les pays de l'Asie de l'époque et il fondait des églises partout. Et il fondait une église et il avait confié cette église nouvellement formée à un évêque, un jeune évêque qu'il avait ordonné, qu'il avait consacré évêque. Et il avait confié à cet évêque, nous dit son histoire, il avait confié à cet évêque un jeune homme qu'il avait converti. Et il dit à l'évêque, voilà, je vous confie ce jeune homme, occupez-vous-en pour qu'il garde bien la foi. Et puis Saint Jean a continué ses pérégrinations apostoliques. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, donc au début tout se passait bien avec le jeune homme parce que l'évêque le surveillait bien. Et puis au bout d'un certain temps, l'évêque occupé par des tas de choses a fini par lâcher la bride et puis a laissé plus de liberté au jeune homme qui a fini par très mal tourner et devenir un bandit, un chef de bandit, un chef de bande. Et il vivait dans les montagnes pour se cacher et continuer ses méfaits. Et plusieurs années après, Saint Jean est revenu dans cet évêché, d'aller voir l'évêque, voir un petit peu comment les choses se passaient. Il a demandé des nouvelles de son protégé. Évidemment, le pauvre évêque était dans tous ses états. Ah, mon père, j'ai malheureusement été infidèle. J'ai pas pu conserver cette personne. Il est mort à la grâce du bon Dieu. Alors Saint Jean a demandé où il était. Il a dit, ah, mais il est caché dans les montagnes. Bon. Il a indiqué les montagnes où il était. Saint Jean y est allé. Il est allé, il a gravi la montagne pour trouver la cachette des bandits. Il a trouvé la cachette des bandits. Et les bandits se sont dit, bah, voilà un pèlerin qu'on va pouvoir dévaliser. Et à ce moment-là, le chef des bandits, qui était ce jeune homme qui avait été converti par Saint Jean, a reconnu Saint Jean. Alors il s'est enfui le plus loin possible de Saint Jean, tellement il avait honte de le revoir. Et Saint Jean l'a poursuivi jusqu'au sommet de la montagne. Alors là, le pauvre homme tombé à genoux, évidemment. Bien malheureux de tout ce qu'il avait fait, et Saint Jean l'a reconverti de nouveau. Et pour montrer la charité extraordinaire de Saint Jean. Et un autre miracle que j'aime beaucoup, encore une fois raconté par Ribadeneira, c'est l'histoire d'un catholique qui était désespéré. Il était désespéré parce que tout allait mal dans sa vie, tout était perdu. Alors il a décidé de mettre fin à ses jours. Donc ce chrétien va voir un vieux juif. Et lui demande un poison fort, un poison virulent, très violent, pour mettre fin à ses jours. Le juif lui donne, moyennant paiement, lui donne un poison. Et le jeune homme, le chrétien désespéré rentre chez lui pour boire son poison. Il boit le poison et puis il fait ce qu'il faisait toujours d'habitude. Avant de boire le poison, il fait le signe de croix sur lui-même. Il a toujours l'habitude de faire ça, donc il le fait. Il boit le poison, puis rien ne se passe. Alors, il retourne voir le vieux juif en disant, mais votre poison, dites donc, vous m'avez roulé. J'ai un poison plus violent. Lui dit, oh, c'est bizarre, parce que avec tout ce que j'avais mis dedans, j'aurais dû mourir en 2 secondes. Alors il donne un poison encore plus violent. Le jeune homme, le chrétien, rentre chez lui, fait son signe de croix, boit le poison, rien. Il retourne voir le juif, furieux. Le juif lui dit, ah, c'est pas possible. Il prend un bout de pain, trempe le pain dans le poison qu'il venait de faire, le deuxième poison, il donne à un chien qui passait par là, le chien meurt immédiatement. Alors le juif lui dit, mais attendez, c'est pas normal ça. Je devrais être mort. Expliquez-moi un peu comment vous le prenez, votre poison. Alors le chrétien explique que ben, il fait le signe de croix, et ça illumine le juif. Il dit, mais alors c'est ça qui vous protège. Alors le juif est resté à ses pensées, le chrétien est rentré chez lui, et finalement il ne s'est pas tué. Et le juif a tellement été marqué par ça qu'il est allé voir l'évêque, Saint-Jean. Il a expliqué ce qui s'était passé. Et il avait compris par ce miracle que la croix est une protection extraordinaire. Et Saint-Jean l'a reçue avec bonté, l'a catéchisée, l'a baptisée. Et ensuite, apprenant donc cette histoire de ce chrétien complètement découragé, il dit aux Juifs qui venaient d'être baptisés, allez me chercher ce chrétien, amenez-le-moi. Et donc, le chrétien arrive avec le Juif qui était devenu un chrétien lui aussi. Et Saint-Jean reçoit aussi avec bonté le chrétien qui était complètement découragé parce qu'il n'arrivait plus, il n'avait plus à travailler, il avait des dettes de tous les côtés. Et tout le monde venait lui demander quelque chose qu'il n'avait plus, et plus d'argent du tout pour payer ses créanciers. Et c'est tout ce qu'il devait. Alors Saint-Jean lui dit, allez me chercher un fagot de bois. Alors, le chrétien va chercher un fagot de bois, rend le fagot de bois à Saint-Jean, donne le fagot de bois à Saint-Jean, qui le bénit, et le fagot, dit l'histoire, s'est transformé en or. Alors il a donné le fagot d'or au chrétien, il dit, allez, vendez cet or, et vous pourrez payer toutes vos dettes. Et cela montre la charité extraordinaire de Saint Jean. Vous savez qu'à la fin de ses jours, c'est même incompréhensible, il scandalisait un peu ses fidèles. Saint Jean, à la fin de sa vie, disait toujours la même chose. Aimez-vous les uns les autres. Alors ses fidèles disaient, bah, écoutez, vous ne pourriez pas changer un peu de dit, c'est toujours la même chose. Pourquoi est-ce que vous répétez toujours cette phrase? Et Saint Jean a répondu, c'est là le message de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout est dans ce message, ça suffit. Et que cela nous aide à comprendre la charité extraordinaire qui doit être la nôtre. Et je pense que cette histoire de Saint Jean est aussi une histoire pour nous. Aussi une histoire pour nous. Parce que Saint Jean était l'apôtre que Jésus aimait. Bien vous ou moi, on peut aussi devenir les amis privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et être justement des gens que notre Seigneur Jésus-Christ, les âmes que notre Seigneur Jésus-Christ aime de façon toute particulière, si nous pratiquons la vertu de chasteté, la vertu des anges. C'est ça qu'on appelle cette vertu la vertu angélique. N'oubliez pas que la chasteté, souvent quand on parle de la chasteté, les gens nous disent, ah, chasteté, c'est une vertu pour les curés. Attendez, c'est vrai que c'est une vertu pour les curés, mais c'est aussi une vertu pour tous ceux qui ne sont pas mariés, tous ceux qui sont séparés de leurs épouses. Donc toutes les personnes qui vivent qui ne sont pas mariées, par exemple, sont tenues à chasteté parfaite, comme le prêtre. Et donc si je pratique cette vertu de chasteté, et ce qui demande aujourd'hui, il faut avouer ce qui est, de plus en plus d'héroïsme, vu le climat délétère impur qui est dans le monde entier, surtout en France, eh bien, si je pratique cette vertu de chasteté, eh bien, je vais devenir moi aussi celui que Jésus aimait. Et deuxième chose qui peut être aussi ce que nous pouvons faire, qui correspond à ce que nous pouvons faire, Saint Jean était le gardien de la Très Sainte Vierge Marie. Mais si j'ai une dévotion tendre envers la Très Sainte Vierge Marie, je peux moi aussi devenir le gardien de la Très Sainte Vierge Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ peut me confier sa mère comme il a confié sa mère à Saint Jean. Donc si je dis mon chapelet bien tous les jours, malgré les difficultés, parce que ce n'est pas toujours facile de réciter son chapelet tous les jours, si je dis mon chapelet tous les jours avec grande foi, même pour ceux qui ont le temps, le rosaire, eh bien, si je dis avec dévotion mon chapelet tous les jours, eh bien, je vais pouvoir moi aussi m'occuper de la Sainte Vierge Marie. Et Dieu va me confier la Sainte Vierge Marie, et comme il l'a confié à Saint Jean. Et enfin, Saint Jean est aussi docteur, je lui ai dit, docteur de l'Église, parce qu'il a, il est le gardien de la foi. Eh bien, si j'ai la foi, moi aussi, je dois devenir le gardien de la foi catholique. Gardien de la foi catholique pour que justement, par ma façon d'agir, par mon enseignement, par les discours que je peux avoir, pas simplement en tant que prêtre, mais même les laïcs qui ont souvent des occasions de parler de leur foi directement ou indirectement, mais qu'ils soient aussi les gardiens de la foi catholique, surtout aujourd'hui plus que jamais. Alors que nous voyons à Rome, Bergoglio, détruire la foi à longueur de journée, eh bien, soyons justement les protecteurs, les gardiens de la foi catholique. Et je peux être à ce moment-là l'apôtre, moi aussi un apôtre que Jésus aime d'une façon tout particulière, le gardien de la très sainte Vierge Marie et le gardien de la foi. Oui, mais bien, chers frères, comme il faut demander la protection de cet apôtre extraordinaire qu'était Saint Jean. Aussi bizarrement que ça puisse paraître, personne ne sait où est son corps. Certains pères de l'Église pensent, mais ça, c'est pas de foi. Et certains pères de l'Église ont jusqu'à dire que Saint Jean est monté au ciel avec son corps, qu'il reviendra à la fin des temps avec Élie et Enoch pour la lutte finale contre l'Antéchrist. Mais ce n'est pas là, c'est soutenu par certains pères, et pas du tout par tous. Donc c'est un peu un mystère, on ne sait pas, de même qu'on ne sait pas où est le corps de Saint Joseph, on ne sait pas où est le corps de Saint Jean. Mais prions Saint Jean, demandons cette grâce justement de savoir conserver envers et contre tout la vertu de chasteté de notre état, bien sûr, l'amour de la très sainte Vierge Marie et également la foi catholique. Et celle qui nous aide justement à garder ces choses, garder la chasteté de notre état, garder la foi catholique dans son intégralité, c'est justement la très sainte Vierge Marie. Nous devons devenir les gardiens de la très sainte Vierge Marie, mais si nous devenons les gardiens de la très sainte Vierge Marie, elle va devenir notre gardienne. La Très Sainte Vierge Marie, son rôle, c'est quoi? Le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est de nous aider justement à conserver la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.